Est-ce que vous avez réfléchi sur les diverses activités morales que nous avions ensemble essayé de rassembler? Vous n'avez aucune autre, hein? Très bien, très bien. Alors, troisième moment, vous comprenez bien, nous sommes au troisième moment. Nous allons donc essayer maintenant de voir que, de fait, l'analyse que nous avons faite de l'activité de l'amour d'amitié implique tous ces moments au sommet. Vous voyez bien. C'est l'analyse que nous faisons successivement. Nous avons analysé, nous sommes partis de l'expérience de l'amour d'amitié. Nous avons analysé le plus profondément possible ce qu'en représentait l'amour d'amitié. Puis nous nous sommes posé la question, est-ce que cette description et cette analyse que nous avons donnée de l'amour d'amitié, est-ce que de fait, ça implique toutes les modalités particulières de l'acte moral? Pour cela, je fais l'enquête. Quelles sont nos diverses activités morales? Nos diverses activités où nous sommes responsables. Nous avons énuméré la dernière fois. Vous avez pris des notes, moi j'ai pas pris de notes. Vous avez rien. Je suis pauvre. Vous avez encore un avoir, donc je ne peux pas mobiliser. Vous avez rien, je crois que je me rappellerai. Puis si j'oublie, vous me le direz. Alors, troisième moment, une fois qu'on a fait ça, nous voyons tout simplement que tout ce que nous avons vu est présent dans l'activité, dans l'analyse de l'activité de l'amour d'amitié, c'est présent et c'est présent au maximum. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez ? Parce que ça me permet de dire que cette expérience de l'amour d'amitié est bien ce qui illumine toute la philosophie morale. Nous allons tout simplement maintenant reprendre et nous allons par le fait même comprendre les dimensions de la volonté. Nous avions vu d'abord l'amour, c'est pas la peine d'insister dessus, mais j'insiste toujours en comprenant que cet amour spirituel, cet amour fondamental qui porte sur le bien, est au-delà du point de vue moral. Comme ça, c'est très important de comprendre. L'amour n'est pas moral. C'est pour ça que je peux appliquer l'amour à Dieu. Si l'amour était essentiellement moral, vous comprenez, hein? Tandis que l'amour n'est pas moral. Donc, première constatation, l'amour n'est pas moral. L'amour est d'une dimension beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus réelle que l'aspect proprement moral. C'est intéressant pour voir à quel moment naît le point de vue moral. Si ça vous scandalise, notez-le, et puis vous mettrez ça en objection. Parce que c'est vrai, c'est intéressant de voir ça. Parce que ne moralisons pas ce qui ne doit pas être moralisé. Et comprenons ce que c'est qu'exactement le point de vue moral. C'est très grand, donc il faut bien l'encadrer. Et l'encadrer, c'est voir sur quoi ça se fonde. Alors on pourrait dire, voyez, la morale se fonde sur l'amour. C'est ça qu'il faut dire. Quand on parlait d'un fondement de morale, j'avais dit l'amour d'amitié. Mais non, ce n'est pas l'amour d'amitié. L'amour d'amitié est l'expérience qui dévoile le point de vue moral, mais le fondement de toute morale, c'est l'amour. Ce qui est fondement comme condition sine qua non. C'est ça le fondement, c'est la condition sine qua non. S'il n'y avait pas un fondement ici, vous enleviez le fondement, ça croulerait. Hein? Condition sine qua non, c'est ça le fondement. C'est pas une cause, le fondement. C'est une condition sine qua non. C'est quelque chose de fondamental qui est nécessaire pour que le reste puisse exister. Alors, il faudrait peut-être arriver à dire ceci. J'essaie d'expliquer, parce que nous voulons avancer toujours plus. L'amour spirituel, dans ce qu'il a de plus naturel, donc en impliquant tout autre amour, est vraiment la condition sine qua non de la morale, donc c'est le fondement de la morale. Une morale n'existe que s'il y a amour spirituel. Je crois que devant ça, personne ne peut rien dire. C'est que personne ne peut rien dire. Il n'y a pas de morale s'il n'y a pas d'amour spirituel, c'est évident. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est traqué, qui agit par peur, une frousse intendée cause d'annulation de mariage, comme on dit. C'est-à-dire pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas de mariage, ce n'est pas une cause d'annulation. Il n'y en a pas eu, donc il n'y a pas annulé. Il y a à constater qu'il n'y a pas eu de mariage. Pourquoi ? Il a été traqué. Et moi, la fille, parce qu'en disant, quand c'est deux garçons, on dit que ça ne joue pas. On a sorti une post-argument. On a sorti cet argument extraordinaire. J'allais presque dire, c'est du temps passé, ça fait partie du Moyen-Âge, ça, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un garçon peut être aussi bien traqué qu'une fille. Mais non, alors, cause traquée, vous voyez bien, le père qui fait une scène énorme. J'ai vu cette chose-là une fois. Un garçon qui voulait se marier avec quelqu'un, il annonce ça à son futur beau-père, qui en plus de ça était médecin. Bon, ça a ajouté, parce qu'il avait une attitude assez particulière de hypnose. Il a dit que c'est malade, mais il avait un pouvoir extraordinaire. Là. Il a joué de ça. Pour qui j'avais vu quoi dire. Alors, il s'est marié à cause de la colère de son. À cause de la colère de celui qui devait devenir son beau-père. Alors, quand j'ai avancé cet argument, j'ai pas parlé de le mariage, pas béni le mariage, heureusement. Donc, quand j'ai avancé cet argument, cet argument serait très très fort et serait sûrement très efficace si ça avait été la fille. Je ne peux rien dire, c'était l'officialité. Alors quand c'est l'officialité de Castel, alors, mais j'ai trouvé que ça ne signifie rien du tout. Parce qu'au fond, on cherche à savoir si on pose un acte dont on est responsable. S'il n'y a plus d'amour spirituel, il n'y a plus d'acte moral. Ça c'est très important, ça, parce que on touche le droit canon, là, donc c'est très très important. On touche des choses très 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 réaliste dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, s'il y a un amour spirituel, il peut y avoir un acte moral. Mais s'il n'y a pas d'amour spirituel, il ne peut plus y avoir d'acte moral. Mais condition sine qua non. Fondement. C'est pour ça que quand il y a quand il y a passion, c'est la même chose, il n'y a pas d'amour spirituel, un amour que l'autre est caché. Donc, ceci est au-delà du point de vue moral, je dirais, le premier. Il faut arriver à le fondement de l'activité morale, c'est l'amour spirituel. L'amour spirituel incarne un bien spirituel, c'est-à-dire incarne de la personne. Pourtant, la personne même implique justement une âme spirituelle. Quelque chose qui est vraiment spirituel. À partir de là, nous avions vu, va naître l'intention. L'intention de vie. Nous avons déjà vu tout ça, je le reprends. Et entre les deux, il y a la possibilité de la corruption de cette âme spirituelle par le point de vue imaginaire. Nous y reviendrons, nous notons le bien. L'imaginaire qui corrompt ce premier amour en velléité. Vous voyez, c'est intéressant, parce que si l'imaginaire est vraiment la peur pour augmenter l'imaginaire, l'hypnose, ça joue sur l'imaginaire. Vous hypnosez, vous arrivez à avoir un pouvoir extraordinaire sur quelqu'un et vous lui vivez. Et donc, le fait que cet amour spirituel va se détruire. Et il arrive à avoir quelque chose qui sera purement qu'une velléité, il n'y aura plus rien du tout. Il n'y aura plus d'amour spirituel. Si l'imaginaire est trop fort, si vous intensifiez l'imaginaire, si l'imaginaire devient trop fort, l'imaginaire va détruire cet amour spirituel. Et à partir de là, plus aucun acte moral. l'imaginaire peut supprimer complètement le point de vue moral. Ça, c'est très très important de comprendre. Les passions et l'imaginaire, mais l'imaginaire avant les passions. Parce que c'est l'imaginaire qui augmente la peur. Nous verrons à propos des passions. C'est l'imaginaire qui augmente la peur. L'imaginaire est un facteur extraordinaire sur le point de vue de la peur. On n'a qu'à se rappeler les premières peurs qu'on avait quand on était gosse, vous savez. On avait ces craintes, ces peurs extraordinaires. Et alors le soir, hein, le noir, qui augmente l'imaginaire, ça augmente les peurs. Les gosses ont peur le soir, quand ça arrive, le grand nuage de la nuit qui couvre tout. Hein, on va être seul dans une chambre noire. Et tout ce qu'on peut imaginer. Alors l'imaginaire qui augmente à ce moment-là et qui fait que la peur, on est complètement inhibé. Et quelquefois ça dure, même quand on est plus grand. Mais alors, c'est plus gênant. Mais c'est l'imaginaire qui va enlever tout actif, tout le point de vue moral, donc va enlever le fondement. C'est curieux ça. Va enlever le fondement de toute la morale. Si l'intelligence est au contraire au service de l'amour, vous voyez, c'est la lutte entre l'intelligence et l'imaginaire. Ça, c'est très très important. C'est la lutte entre l'intelligence et l'imaginaire. Si l'intelligence est suffisamment l'intelligence pratique, pas l'intelligence spéculative, l'intelligence spéculative n'a rien à voir. C'est très curieux, l'intelligence spéculative n'a rien à voir. C'est très important, par ça. C'est l'intelligence pratique. Donc une intelligence affective, une intelligence qui était déjà au point de l'amour et qui va être au service de cet amour. Et qui va transformer cet amour en intention. C'est donc l'intelligence au service de l'amour qui va permettre le point de vue moral, qui va faire naître le point de vue moral. Donc je peux dire que l'imaginaire est le grand ennemi numéro un de l'activité morale, que l'amour spirituel est son fondement, mais que l'activité morale ne pourra naître que grâce à l'intelligence. Mais ça, je crois que je peux le dire maintenant, parce que nous avons vu tous les autres, toutes les activités morales. Je peux le dire avec beaucoup de fermeté et beaucoup de précision. Et c'est intéressant parce que je vois donc que si l'amour spirituel est fondement, ce n'est pas l'amour spirituel qui formalise l'activité morale, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence pratique. C'est l'intelligence pratique qui va structurer le premier moment de ma vie morale. Le premier moment de ma vie morale. C'est l'intention de vie. L'intention qui porte sur la fin. Alors là, vraiment, la morale est présente. Donc je ne peux pas dire que l'intention est le fondement de la morale, puisque c'est le moment principal de la morale. Donc distinguons bien fondement et premier moment de la morale. Le premier moment de la morale, c'est donc l'intention de vie. Premier moment. Alors maintenant, il s'agit de montrer que cette intention qui existe dans l'amour d'amitié, et l'intention maxima. Hein? Vous voyez le raisonnement que je prends, j'espère. Le raisonnement, vous voyez, hein? Je vais relever ici toutes les activités morales, je les regarde dans l'expérience de l'amour d'amitié, pour comprendre que dans l'amour d'amitié, tous ces moments de l'activité morale touchent quelque chose d'absolu. D'absolu, chacun dans leur palier, chacun à leur niveau. L'intention morale, l'intention de vie, porte sur la fin. Quand il s'agit dans l'amour d'amitié, porte donc sur le bien qui est la personne humaine, qui est ma fin. La fin la plus parfaite. Pour moi, c'est la personne. Alors, je vois tout de suite l'objection, vous allez dire, ah non, c'est Dieu. Attention. Je suis au niveau moral. Hein? Au niveau moral. morale et de la morale humaine. Je ne touche pas le point de vue de la morale religieuse. Nous reviendrons après. La première chose que nous constatons, c'est la responsabilité de l'homme par rapport à l'homme. Donc c'est un niveau tout à fait premier au point de vue philosophique et très important, puisque la morale religieuse présuppose d'autres morales. Et la morale chrétienne présuppose la morale religieuse. Donc comprenez bien. Dans la morale chrétienne, quelle est ma fin première? Propre, c'est Dieu. Il ne peut pas y avoir une intention plus parfaite au niveau morale chrétienne que de m'orienter vers Dieu et de choisir Dieu comme fin. Au point de vue religieux, c'est Dieu créateur. Dieu Père créateur. Eh bien, c'est vrai, l'intention de l'adoration et de la contemplation humaine autant qu'elle est possible, c'est peut-être plus parfait. Mais au niveau de la morale proprement humaine, le niveau premier, c'est vraiment la personne humaine qui est le plus, qui est l'absolu. Puisque Dieu ne m'est pas donné directement, je n'ai pas immédiatement au plan philosophique l'expérience de Dieu. Donc je ne peux pas dire que c'est Dieu. C'est donc pas Dieu qui est la fin propre. Hein, comprenez bien, fin propre. La fin propre de mon intention de vie, la plus élevée peut-être que la personne humaine. La personne humaine que j'aime. La personne humaine qui est mon ami. La personne humaine qui, que je considère comme celle qui est capable de m'élever, de m'attirer. Donc, je peux dire que parmi toutes les intentions morales, la plus parfaite, c'est celle que j'ai à l'intérieur de l'amour d'amitié, cette intention qui me fait porter sur la personne humaine comme ma propre fin. Même notez bien, si vous avez des questions, soulevez-les, parce que on précise maintenant. Hein. On est là dans... Je voudrais que ce soit très net pour vous, mais net pas parce que je dis, net par votre analyse. Hein. Et si vous ne voyez pas, vous dites, je ne vois pas. Parce que c'est important aujourd'hui. C'est important pour nous. C'est important pour ceux que nous verrons. Parce que c'est très important de pouvoir détecter ce que représente exactement la responsabilité de l'homme. Vous comprenez que c'est à partir de cette intention de vie que la responsabilité va commencer à naître. Cette responsabilité, cette intention, donc, implique la responsabilité et implique la liberté. Donc toutes les conditions nécessaires pour qu'il y ait un acte moral. Responsabilité et liberté. Et ceci grâce à cette intelligence pratique qui m'éclaire ce bien comme étant un bien capable de me finaliser. Ce bien me finalise. Et donc, je m'oriente, je m'ordonne, n'oublions jamais, l'intention c'est s'ordonner, je m'ordonne vers ce bien. Je m'ordonne vers cette fin. Que j'ai décidé librement d'aimer et de considérer comme ce que je dois rechercher. Et dans, à ce moment, dans cette intention morale, ce premier moment de la vie morale, je m'aperçois de toute la distance qui existe entre l'union affective et la distance de l'union affective. Deuxième moment. Le point de vue du conseil, nous l'avions vu. Le conseil est un acte moral. Donner conseil à quelqu'un, j'ai pas le droit de donner conseil. J'ai pas le droit de donner n'importe quel conseil. Le conseil est un acte moral. Le conseil existe à l'intérieur de l'amour d'amitié. Il existe en ce sens que je réfléchis normalement. Donner conseil, ce n'est pas nécessairement demander conseil aux autres. Hein. C'est soi-même s'arrêter, s'asseoir et réfléchir.
Donc très juste. Et ceci, ce n'est pas du conseil. Je peux demander aussi aux autres.
Je peux demander à quelqu'un de m'aider, de m'éclairer.
C'est la phase d'information. Je réfléchis.
Quand il s'agit de cette intention de vie par rapport à ce bien qui est une personne humaine, je comprends que le conseil prend une force très particulière parce qu'il s'agit de savoir si cette fin que je veux poursuivre, je veux savoir comment la poursuivre. Le conseil porte sur ce comment. Comment la poursuivre? Comment pouvoir vraiment l'atteindre de la manière la plus efficace? C'est évident à l'égard d'une personne humaine que le comment prend toute sa force. Comment puis-je faire que la distance qui existe entre l'union affective et l'union affective puisse être résorbée? C'est ça la grande question. Le comment est là. Il y a un hiatus entre l'union affective qui est dans l'amour et l'union affective, puisque ce bien, c'est ma fin, c'est-à-dire je ne la possède pas encore. Il y a un hiatus entre les deux. Comment résorber ça? Vous voyez, donc, le conseil porte sur les moyens. Comment? C'est par rapport aux moyens. Ça porte sur les moyens. Je peux dire que c'est vraiment par rapport à l'activité, par rapport à la personne humaine, que le conseil porte toute sa force. Donc, le second moment, je ne dis pas que c'est le plus important, mais le second moment d'une activité morale, c'est la réflexion. La réflexion, le conseil. À partir du conseil, il y a le choix. L'élection. Qui porte, alors ici, c'est tout de suite la distinction que nous avions faite, et que je crois très important. De fait, lorsqu'il s'agit de l'amour d'amitié, cette élection porte sur une personne humaine. Donc c'est un choix très particulier. Je choisis une personne pour être celle qui peut seule m'apporter la plénitude d'un épanouissement humain, ou plus exactement, la plénitude d'un amour. Je choisis. Vous voyez que ce choix est très différent du choix qui porte sur des moyens relatifs, des moyens secondaires. Pas tout à fait la même chose. Je crois qu'il faut tout de suite discerner, dans la tête pas d'aspect, discerner deux niveaux de choix que je peux très bien réaliser à l'intérieur même de l'amour d'amitié. Ordinairement, on ne le fait pas, mais on peut le faire. Je peux très bien réaliser deux choses. Je peux très bien dire, je choisis cet ami, je le choisis comme ami, que le choix porte sur l'ami. Et donc l'ami, il y a l'ami, il y a la fin, il y a le bien. Pendant tout ça, c'est la personne humaine. Et donc trois dimensions de la personne humaine, le bien, la fin et puis l'ami. Et je choisis l'ami au sens fort. Je le choisis comme étant mon bien. Et donc ce choix amical, nous l'avions vu, se comprend, en présupposant le conseil, mais se comprend dans le fait que je reviens au premier amour pour que cet amour soit fervent. Un choix, c'est un amour fervent. Un amour tellement fervent qu'il permet de faire que toutes les autres possibilités disparaissent. C'est comme ça qu'on fait quand on choisit. Autrement, choisir en louchant, hein. Ça va pas. Hein. Le choix n'est pas vrai.
Tandis que quand vous choisissez toutes les autres possibilités, toutes les possibilités que vous avez soulevées au niveau du conseil, le conseil est très astucieux pour relever, comme toute réflexion, toutes les possibilités.
Eh bien, toutes ces possibilités disparaissent dans le choix. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ferveur d'amour qui fait qu'à ce moment-là, tout le reste disparaît et il y a une préférence. C'est pour ça que le choix implique toujours une préférence.
Une préférentielle de ce point-là.
Il met en pleine lumière la vie. Je le choisis plus que tous les autres. Plus que tous les autres, vous voyez. Tous les autres sont exclus d'un seul coup.
Ils tombent de... Ils tombent.
Tous les autres qui auraient pu intervenir avant.
Subitement, le possible va être mis entre parenthèses. Tous les possibles. Ils sont complètement dépassés. Et le choix. Alors, ça, c'est le choix qui porte sur la vie. Le choix qui porte sur les moyens relatifs.
À côté de la vie, je peux choisir. Enfin, évidemment, je peux choisir. Je peux choisir des quantités de choses. Je vais aller auprès de lui, je vais aller devant lui, je vais lui dire que je l'aime. Ah bon, attention, là. Je vais essayer d'avoir les moyens les plus adéquats à ça, non ? Pouvoir quand même se présenter.
Alors à ce moment-là, il y a des moyens relatifs. Hein.
Vous avez demandé à quelqu'un d'autre ses goûts et ses préférences. Bon, ça peut pour aider. Alors, les goûts et les préférences, c'est des choses secondaires. Ça ne regarde pas la personne, mais ça regarde le milieu dans lequel on est. Vaut-il mieux que j'aille à tel moment, le matin, le soir, est-ce qu'il comprend mieux les choses le soir ou le matin? Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille de telle ou telle manière? Et ainsi de suite. Mais c'est très très curieux ces choses-là. C'est très vrai. Le conseil a éveillé toutes les possibilités. Vous devenez intelligent à ce moment-là. Toutes les possibilités. Et alors, vous choisissez les choses secondaires. Dans le choix secondaire, nous avions vu, l'intelligence prend une place très importante. Alors que dans le choix qui porte sur l'ami, c'est pas l'intelligence, c'est le premier amour. C'est très important à saisir ça. C'est le premier amour qui est très important. Je ne choisis que par amour. Autrement, je choisis mal. Je choisis par intérêt. Vous savez, quand vous avez choisi par intérêt, j'ai choisi par snobisme. À cause des autres qui sont autour de moi, ça fait bien, on est bon. J'ai choisi par deux. Donc on ne choisit que par amour. Et quand on choisit par amour, le choix reprend le premier amour. Et le choix donne au premier amour une lucidité qu'il n'avait pas. Ça qui est extraordinaire. Oui, on fait du surplace. Beaucoup plus que pour l'intention. C'est ça qui est très très beau. C'est que l'intention est présente, mais elle est complètement détachée et je rejoins le premier amour. Et c'est par amour que je choisis. Je laisse tomber toutes les autres considérations. Tandis qu'au contraire, pour les choses secondaires, ah, c'est pas par amour, non. C'est parce que je sais qu'il me préfère, parce que je sais que c'est plus capable, et ainsi de suite. Ce sont des choses secondaires où l'intelligence reprend une place prédominante dans ses moyens relatifs, ses moyens secondaires, qui ne sont pas une personne, qui sont des biens relatifs. Alors, ici, je suis en présence, je peux dire, si vous voulez, du troisième moment. Mais un troisième moment qui, d'une certaine manière, est un premier moment. Alors, je mettrai un premier vice, hein, en comprenant bien. Je crois que le choix n'est pas un troisième moment d'activité morale. Le choix est ce qui noue le mieux le point de vue moral. C'est dans le choix où je suis le plus libre. Donc je retrouve responsabilité et liberté. C'est sûr. C'est dans le choix où je vois mieux ma responsabilité et je vois le mieux ma liberté. Donc, c'est bien là le moment moral par excellence. Vous voyez, une retraite d'élection.
évident, c'était au niveau chrétien, c'était au niveau religieux. Mais ça reste quand même, hein, faut pas l'oublier. Eh bien, c'est ce choix, on dira, faites attention, c'est toute votre prédestination qui est en cause, hein, quelquefois en dit ça, hein. C'est très grave de retenir. Toute votre prédestination qui est en cause. Alors, votre premier amour, votre choix, attention. Vous voyez, c'est grave, parce qu'alors ça reste d'en supprimer la liberté du choix. Hein? C'est jamais entièrement vrai. C'est très vrai que je choisis en fonction du premier amour, mais ce choix n'est pas mon premier amour. C'est deux choses distinctes. Donc, il y a quelque chose de plus fondamental qui est ce premier amour. Ce n'est pas le choix qui fonde la morale. Ce n'est pas le choix qui fonde l'activité morale. Le choix représente, je crois, l'activité la plus caractéristique de la morale. Je serais tenté de dire ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis tenté de le dire. Après l'analyse que nous faisons, hein, j'ai tenté de dire que le choix est vraiment le moment où le point de vue moral est le plus manifeste. Donc le plus lui-même, c'est dans le choix. Vous voyez, c'est pas l'intention. L'intention, c'est très très important, c'est premier, mais c'est, là c'est le plus manifeste. C'est pas le conseil qui est le plus important. Un conseil, on les distribue pas longuement, c'est pas ça qui est le plus important. C'est très important, c'est essentiel, mais c'est pas ce qui est le plus important. Et à un moment, c'est ça. Je dirais, c'est ce qu'on fera automatiquement, ça c'est très curieux. Ah, vous m'avez donné ce conseil, et puis quand vous avez choisi, vous avez juste inverse. Ah, mais quoi, c'est bien obligé de reconnaître que, en effet, alors vous êtes obligé de dire oui, j'ai réfléchi de nouveau. Il y a eu un petit peu de temps, heureusement, parce que j'ai eu un peu de temps. J'ai réfléchi de nouveau, puis je vois qu'en effet, il faut pas faire ça. Alors, le choix, c'est ce qui manifeste le plus. Après le choix, vous avez donc l'exécution, l'interview. Le commandement, nous reprenons, mais simplement pour mieux se dire comment tout est fondé sur l'amour. L'intérieur. L'intérieur qui ne porte plus directement sur la personne, c'est en ce sens-là que là il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans l'ordre moral. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau, ça ne porte plus sur toutes mes activités avant étaient intérieures. Je pouvais demander conseil et donc l'extérioriser à un ami, à quelqu'un qui j'avais confiance. Mais donc le conseil était déjà une pierre d'attente vers les autres. Mais autrement, l'amour spirituel premier, c'est intérieur, l'intention de vie, c'est intérieur, le choix, c'est intérieur. Ça, c'est sûr. Tandis que le commandement, l'imperium, c'est ceci. Exécute. Alors là, je passe à quelque chose de visible. Je passe à quelque chose de visible. Alors ce quelque chose de visible mobilise, par le point de vue de l'intelligence et par le point de vue de la volonté, mobilise toutes mes capacités d'application, de réalisation. Je mobilise toutes mes énergies pour pouvoir foncer, pour pouvoir réaliser. Et c'est l'aspect de la réalisation de la chose. Donc ça, c'est l'imperium, qui est un acte, nous l'avions vu, un acte essentiellement d'intelligence. Alors l'imperium ne porte pas sur le point de vue de la fin, mais porte sur l'exécution. Donc, rejoindre par l'efficacité, par les moyens, rejoindre ce qui était le premier bien que je voulais. C'est le propre du commandement. Bien, il faut comprendre que le commandement, l'impérium, dans l'ordre de l'amour d'amitié, et ce qu'il y a de plus parfait parmi tous les impériums. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus délicat. Quand vous prenez les différents actes d'impérium dans votre vie morale, à quel moment l'impérium est-il le plus net? Jusque-là, je crois qu'on peut très bien comprendre que le point de vue de l'amour d'amitié représente le sommet de ma vie morale. De ma vie morale au niveau humain. Ça, je crois que je peux le dire. Tandis que quand il s'agit d'impérium, j'ai beaucoup plus de peine à comprendre. Parce que j'ai d'autres expériences de l'impérium. Je prends par exemple l'exemple très simple au point de vue moral, puisque nous sommes dans l'ordre moral. Il me semble que commander à quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus parfait que de me commander à moi-même. J'exerce l'autorité. C'est si séduisant. C'est si merveilleux. Donner un ordre. Fais ceci. Hein? Puis on voit que ça s'exécute. Alors on croit qu'à ce moment-là, notre parole devient efficace comme celle de Dieu. Le premier jour, on reçoit un refus en disant non. Alors on dit bille alors. À ce moment-là, je croyais que ma parole était efficace et que j'avais un certain pouvoir de pouvoir commander. Eh bien, je vois que ce n'est pas du tout efficace. Le commandement, c'est à l'égard d'un autre que le commandement est le plus manifeste. Je crois, pour l'impérium, songez un tout petit peu. C'est les différentes fois où vous avez commandé à un plus petit que vous. Des frères aînés, c'est. Ils aiment bien ça, commander une petite sœur. Hein? Allez, fais ça. Ou bien quand vous avez exercé un tout petit peu, la première fois que vous avez exercé l'autorité en étant pion. Hein? C'est extraordinaire comme expérience. Ou quand vous avez enseigné. Ou que vous avez commandé tout simplement un gars de sauce. Hein? Il faut faire ça, il faut l'exécuter, il faut que ce soit fait. Puis à telle heure, hein? Et ça donne quelque chose de très impératif. Ça donne quelque chose de très impératif parce que le temps vient accentuer l'autorité, n'est-ce pas? On domine sur le temps, c'est merveilleux. Tu feras ça en temps de temps. Exécute comme ça. C'est très curieux. On a tous senti la griserie de l'impérium. Acte d'intelligence. C'est pour ça que c'est si séduisant. Si ce n'était pas un acte d'intelligence, ce serait pas séduisant. C'est un acte d'intelligence. Un acte d'intelligence qui ordonne dans l'ordre de l'exécution, qui met un peu de lucidité dans l'ordre de l'exécution. Il est bien évident que comme je commande, comme je donne un ordre, ça va devenir très lucide. Et j'ai réfléchi beaucoup avant. Je sais très bien que c'est la meilleure des solutions. Faites-le. Toute l'exécution devient limpide grâce à mon impérium. Pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire pour moi qui commande. Mais pour celui qui exécute, c'est beaucoup moins lucide, beaucoup moins limpide, et beaucoup moins évident que c'est tout à fait ordonné. Que tout ordre implique la lumière même de ordonner l'exécution. Je crois que nous avons... C'est intéressant d'y réfléchir, parce que l'impérium est un acte moral très très important, hein. C'est par l'impérium que vous voyez le passage de l'éthique personnelle à l'éthique communautaire. Donc, c'est par l'impérium que je vois le lien qui va exister entre le point de vue de la morale personnelle et de la philosophie communautaire. C'est l'impérium. C'est l'autorité qui fait ça. S'il n'y avait pas d'autorité, il n'y aurait pas de philosophie politique.
n'y avait pas de philosophie communautaire, ce n'était pas l'imperium. Alors l'imperium s'enracine dans une morale personnelle. Mais c'est peut-être au moment où justement je peux me tourner vers les autres et de dire « fais ceci » que je sens le mieux ce que c'est que l'imperium. Donc, l'imperium, à la différence de tous les autres actes, l'imperium n'est parfaitement lui-même que quand je commande un autre. Je pose ça comme recherche. Hein. C'est important, vous savez, c'est très important parce que c'est ce qui me permet de saisir les liens entre l'éthique personnelle et l'éthique communautaire. Je suis persuadé que c'est là. Enfin, c'est une jointure très importante. Une jointure difficile et très importante. Et là, c'est pour ça que c'est intéressant de voir le premier moment où je commence à choper. Je me dis, tiens, non, c'est pas l'amour d'amitié. C'est vrai, commander à un ami, c'est pas drôle du tout. Parce qu'on sait qu'il exécutera. Vous n'exercez absolument aucune autorité sur un ami. Aucune autorité sur un ami. C'est beaucoup plus que l'autorité. C'est un amour qui nous lie. Alors au fond, on n'exerce pas l'autorité. C'est pas du tout quand vous dites à un ami, fais ceci, ou bien je vous dis avec beaucoup de choses, tu ferais tellement de plaisir. Tu ferais tellement de plaisir si tu pouvais faire ça. Si tu avais pensé faire ça, comme ça m'aurait fait plaisir. C'est pas du tout l'impérium, ça. C'est tout simplement capter la bonne volonté de l'autre. Alors quand on capte la bonne volonté de l'autre, c'est ou parce qu'on a trop peur de l'autre, ou parce qu'on l'aime trop. Et on fait la même chose. Quand vous avez très peur de l'autre, vous captez la volonté. Vous n'êtes pas à l'impérium tout de suite. Vous n'êtes pas à l'ordre tout de suite. Il dit oui. Étant donné les circonstances, il vaudrait mieux. Alors, à ce moment-là, vous commencez à noyer l'imperium de un peu de rhétorique. Vous voyez, la rhétorique est là pour noyer le poisson de l'imperium, du commandement. Alors vous faites ça. Ou bien alors, quand, avec un ami, on n'aime pas donner un ordre, alors on lui fait comprendre que. Donc, il me semble bien, il faut y réfléchir, et j'aimerais que vous y réfléchissiez, parce que c'est important. Il me semble bien que c'est lorsqu'on arrive à l'impérium que je dis attention. Mon expérience d'amour d'amitié semble là ne plus me donner l'acte le plus parfait. Il me semble que l'impérium, on va étudier la chose, hein, que l'impérium n'est parfait que lorsque je commande à un autre. Commander à un autre, un plus petit que moi, ou un plus grand que moi, c'est encore mieux ça. En fait, que je commander à quelqu'un d'important, alors là, tous les galons qui poussent, hein, c'est extraordinaire. C'est vrai, donner un ordre à quelqu'un, pour des circonstances particulières, c'est pas seulement donner un ordre, mais vraiment avoir autorité sur lui. Parce que, autrement, je ne donnerais pas un ordre. Donner un ordre à quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus digne que moi, beaucoup plus sain que moi, c'est extraordinaire. L'autre, c'est au moment où vous donnez l'impérium à un autre que vous sentez le mieux, je crois, ce que représente l'impérium. Ordonner l'exécution de l'autre. Passer devant lui. Puisque c'est ça l'impérium, c'est passer devant lui. C'est à la place qu'il suive tout simplement son jugement propre pour son activité, le jugement de sa propre prudence. Vous passez devant et vous dites, ah non, aujourd'hui tu feras ça. C'est ça que ça exige l'obéissance. L'impérium que vous donnez, indépendamment de l'obéissance, c'est deux choses différentes. Parce que vous dites ça, tu feras ça avant qu'on obéisse. Donc l'obéissance est une conséquence, ce n'est pas l'acte d'impérium. L'acte d'impérium est antérieur. L'acte d'impérium est là pour passer devant et donner un ordre à celui qui normalement avait organisé sa vie à sa manière, et puis vous passez devant. Et alors à ce moment-là, vous comprenez très bien que C'est vrai que l'imperium est parfaitement imperium que quand il s'adresse à l'autre pour lui faire changer son avis. Vous voyez, l'imperium. C'est ça l'imperium. Alors réfléchissez là-dessus. Moi j'aimerais beaucoup, parce que je crois que ça vaut la peine. Réfléchissez sur l'imperium qui existe à l'intérieur de l'expérience de l'art d'amitié et l'imperium qui existe lorsqu'on commande à un autre.